Bien, c'est une évidence à laquelle nous sommes constamment confrontés. La lutte pour la vie est commune à toutes les créatures sous le soleil pour les besoins quotidiens en premier et puis les aléas de la vie. Les épreuves ne manquent pas, maladies, infirmités, souffrances physiques et morales, conflits familiaux, sociaux, professionnels, etc., etc. La liste est longue et chacun peut y ajouter ses propres luttes personnelles. Dans ce message, je voudrais mettre l'accent sur la façon dont ceux qui croient en Dieu et en Christ considèrent les difficultés de la vie et y font face. Car dans l'adversité, nous qui croyons, nous n'avons pas le même comportement que les incroyants. Certains se découragent tandis que d'autres se servent des épreuves comme un tremplin pour les propulser en avant. Pour ceux qui croient en Dieu, l'épreuve est une opportunité pour la foi. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien, nous dit Jacques dans sa première épître. C'est là ce qui fait votre joie, et cela est paradoxal. Des épreuves, des souffrances qui provoquent une joie intérieure. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant. Puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez, sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Combattre, c'est une évidence et personne n'y échappe. Si la vie en général impose à tous son lot de difficultés, d'épreuves et de souffrances, on peut dire que la vie chrétienne en particulier est un champ de bataille. La vie est un champ de chrétienne est un champ de bataille permanent. Mais ce qui est important, c'est vaincre. Ce qui est important, c'est de persévérer. Ce qui est important, c'est d'être toujours vaillant pour ce combat qui n'a pas de fin, qui est permanent et qui contribue à nous rendre vainqueurs dans la foi. Justement, on va parler de ce combat de la foi. Tous ceux qui croient réellement au Seigneur Jésus et qui sont ses disciples et qui veulent lui rester fidèles sont concernés par ce que l'apôtre Paul appelle le combat de la foi. Un combat qui dure toute la vie. Combat le bon combat, dit-il, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. 1 Timothée chapitre 6. Et Paul lui-même rappelle, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Le combat de la foi ne se limite pas à ce que certains appellent le combat spirituel contre le diable et les démons, mais concerne tous les domaines de notre vie chrétienne, et en particulier celui qui nous est commun à tous, notre nature charnelle. On l'a souvent répété, notre principal ennemi, c'est nous-mêmes. Le combat de la foi ne se limite pas à ce que certains appellent le combat spirituel, comme je l'ai dit, mais ce combat contre notre nature charnelle. Et Paul rappelle, je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Vous connaissez tous ce passage dans Romains chapitre 7. C'est un combat également qui a lieu dans le monde, contre l'esprit du monde. Si nous n'y prenons pas garde, notre façon de penser et d'agir sont vite envahies et assujetties par les conceptions et le comportement de notre monde, de ce monde incrédule. Dans sa prière, Jésus demande à son Père de nous garder du mal qui est dans le monde. Jean, Évangile de Jean, chapitre 17. Et l'apôtre Jean écrit aussi de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. On trouve cela dans sa première lettre. N'aimez point le monde, dit-il, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jacques dit avec force que l'amour du monde est inimitié contre Dieu, et celui qui aime le monde se rend ennemi de Dieu. C'est une chose à laquelle nous ne prêtons pas toujours attention, car nous sommes dans le monde et nous y sommes plongés jusqu'au cou. Et puis, nous n'avons même pas conscience que l'amour pour le monde, c'est inimitié pour le monde, inimitié contre Dieu. Et les mots sont forts. Adultère. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. C'est toujours Jacques qui nous le rappelle dans sa lettre, chapitre 4. Il ajoute que la religion véritable consiste à se préserver des souillures du monde. À son tour, l'apôtre Pierre écrit que si nous retournons dans les souillures du monde et que nous sommes vaincus, notre condition est pire qu'avant notre conversion. En effet, dit-il, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau. Ils sont vaincus et leur dernière condition est pire que la première. Combat contre le péché. L'autre combat qui nous concerne personnellement est celui que nous avons à mener contre notre propre nature pécheresse. Le combat de la sanctification. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Hébreux chapitre 12. C'est une lutte constante et difficile, dont l'apôtre Paul parle comme d'une expérience personnelle. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. On se rappelle des paroles de Jésus avant son sacrifice, paroles de commandement qu'il donne à ses disciples. Veillez et priez, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est notre combat contre la chair. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui prévaut. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, qui me rend captif de la loi du péché et dans mes membres. Et Paul a ce cri qui est valable pour nous tous, misérable. Misérable que je suis, misérable sommes-nous. Qui me délivrera du corps de cette mort? C'est Romains. Chapitre 7, et vous connaissez bien ce passage, et tout le chapitre 8 va y répondre. Qui me délivrera? Alors, pour ce combat, la première des choses, et le plus important, naturellement, c'est Quand on mène un combat, ce n'est pas pour capituler, ou bien se sauver, ou bien fuir ce combat, mais c'est de vaincre. Je relisais récemment un passage de l'épître de Pierre qui reste très fort dans mon esprit, tant il est empreint de gravité et de solennité. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau, ils sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, et on va y revenir. Cette condition-là est pire qu'avant la conversion, qu'avant l'acceptation du sacrifice de Jésus. Leur dernière condition est pire que la première. Et Jésus emploie exactement la même expression dans un entretien, un entretien avec les pharisiens qui est rapporté dans l'évangile de Matthieu. Lorsque un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confie et il distribue ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, il prend sept autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. On peut lire cela dans l'évangile de Luc, chapitre 11. Alors, que faire devant un tel combat? Ben, l'essentiel, naturellement, c'est comme un athlète, c'est de se fortifier. Fortifiez-vous. C'est une injonction divine que nous retrouvons dans d'autres passages, comme celui qui nous rapporte ce que l'Éternel a dit à Josué à plusieurs reprises. Lors de l'entrée à Canaan, l'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit, fortifie-toi et prends courage, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que j'ai juré de leur donner, et je serai moi-même avec toi. Deutéronome chapitre 31. L'exhortation est aussi adressée à d'autres personnages de la Bible, ainsi qu'à tous ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante, dit Paul aux Éphésiens. Lui-même a écrit qu'il combattait avec la force de Dieu qui agissait puissamment en lui. Il est important de comprendre et d'accepter que dans tous nos combats, c'est Dieu qui nous aide. C'est Dieu qui combat. C'est Dieu qui donne la force, qui nous est indispensable parce que nos propres forces sont insuffisantes. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force. Jérémie chapitre 9. Dieu disait à Israël une chose qui nous concerne aussi. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force. Conclusion. Eh bien, pour combattre, il faut avoir de l'armement. Et on l'a vu dans toutes les guerres, déjà les guerres humaines, ceux qui n'ont pas assez de matériel, eh bien, ils vont être vaincus, surtout à notre époque aussi technique et mécanique. Alors, il faut avoir toutes les armes, non seulement pour combattre, pour faire la guerre humaine, surtout à notre époque, mais il faut avoir aussi toutes les armes de Dieu pour mener ce combat spirituel. Et vous vous rappelez, on connaît par cœur ce passage dans Éphésiens chapitre 6. C'est Paul qui voit ce légionnaire romain avec sa tenue et ses armes. Pour remporter la victoire dans ce combat spirituel, donc, il faut ces armes puissantes. Et Paul les rappelle, il s'inspire de l'armure du soldat romain pour désigner les armes que nous avons besoin. Une ceinture, une cuirasse, des chaussures, un casque, un bouclier, une épée. Alors pour conclure, il y a une chose qui est aussi extrêmement importante. Pour avoir la force, il n'y a pas seulement que les armes que nous venons de citer, les armes spirituelles, mais il y a aussi quelque chose qu'on oublie souvent de mentionner. Ce qui peut nous donner la force de combattre, ce sont les armes que nous donne l'Église. Et à un tel point que il est dit dans le 10e chapitre aux Hébreux, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. Ne pas abandonner son assemblée. Comme c'est la coutume, dit-il, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. C'est important de venir à l'Église. C'est important de ne pas abandonner notre assemblée. Et hélas, on a pu observer que, heureusement, quelques-unes de nos frères et sœurs qui se sont éloignés de l'Église. Bon, certainement pour des choses, j'en dis l'attirance de ce monde. Et on ne vient plus à l'église pour commencer de façon peut-être accidentelle, ou bien on y prend garde, et puis après on se dispense d'y venir une semaine, 2 semaines, 3 semaines, après, bon. Et ça va très très vite, vous savez. On ne vient plus à l'église. Alors qu'est-ce qu'on perd? Bien, on perd naturellement l'amour fraternel, c'est sûr, mais on perd surtout cette exhortation de nous aider les uns les autres. Et puis, où va-t-on écouter la parole de Dieu? Sur Internet? Sur Facebook? À la télé? Sur autre chose? Non, nulle part. C'est ici, maintenant et tout de suite que nous pouvons écouter la parole que je viens de vous citer en quelques mots. C'est un classique, vous allez dire, ce message, c'est vrai, mais il faut souvent le répéter, car la parole de Dieu, la parole de Christ, c'est cela qui nous donne la foi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Combien de fois dans la semaine lisez-vous votre Bible? Pierre-André nous dit qu'ils se sont, Pierre, se sont efforcés de faire la lecture, je ne sais pas, c'est quotidienne, de la Bible. il y a longtemps qu'on ne le fait plus. Qui peut dire qu'il lit tous les jours sa Bible? Levez la main. Eh bien, c'est très bien. Mais en grande partie, moi, le premier, je ne lis pas ma Bible tous les jours. Non. Ah! Et ça m'arrive assez souvent, ça m'arrive surtout lorsque j'ai l'occasion de vous présenter, comme ce matin, un message. Alors ça peut être, disons, quelquefois je me dis, oh là là, ça ne va pas être facile. Et quelquefois aussi, on est un petit peu, timide. Et puis on s'est dit, mais comment vais-je faire? Mais on l'a lu, on l'a répété, c'est Dieu qui nous aide, c'est lui qui nous donne l'assurance, c'est lui qui nous donne cette possibilité. Vous savez, je ne vais pas parler de moi parce que, bon, le message est terminé, mais je ne suis pas doué du tout, du tout, pour quoi que ce soit. Alors, premièrement, j'ai une mémoire qui est médiocre, lorsque j'étais jeune et puis que j'allais au collège, par exemple, j'étais médiocre. Surtout en maths. Je n'ai jamais réussi à faire un problème en mathématiques. Je n'ai jamais compris. Mais à force de travail, bon, mais en littérature, ça allait quand même un peu mieux. Et c'est pour ça que je peux me permettre maintenant de vous présenter un message. En littérature, ça allait. Mais la mémoire, et c'est pour cela que il faut relire souvent sa Bible. Parce qu'on oublie. On oublie. Et je connais, on connaît des frères qui connaissent, j'allais dire, presque leur Bible par cœur. Ils peuvent citer tous les passages. Premièrement, ils ont une excellente mémoire. Ils lisent souvent. Et bon, mais moi, ce n'est pas le cas. Et surtout au début, bon, ça fait quand même quelques décennies qu'on étudie la Bible. Mais il y a encore bien des versets qui ne sont pas rentrés dans mon disque dur. Hein. Et ça, il n'y a rien à faire. Mais il y a des gens qui sont particulièrement doués pour retenir tous les messages, et en particulier les versets. Ils peuvent dire, ah ben ça se trouve là, là, là et là. Mais moi, niet. Bon, parce qu'on a une mémoire comme ça. Mais je sais que je suis vainqueur en ce qui concerne la foi, en ce qui concerne la persévérance. Mais cela, je le dois à qui? Non pas à mes propres, parce que je ne suis pas doué du tout. Alors là, c'est tranquille avec ça. Je ne vais pas dire, ah oh, ben, je suis fier parce que, hein, j'ai... Bon, non, je n'ai rien. Mais j'ai tout. J'ai tout parce que c'est Dieu qui me donne la force de son esprit. Frères et sœurs, prions et remercions le Seigneur afin qu'il nous donne la force de son esprit, comme il l'avait donné à Josué lorsqu'il est rentré dans le pays, lorsqu'il est rentré dans Jéricho. Bon, c'est Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, que ce soit nos besoins spirituels, et aussi pour mener ce combat de la foi qui est permanent et qui a besoin d'être encouragé, j'allais dire quotidiennement. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et que Dieu nous aide.